Bonsoir, c'est un monde qui change de visage très rapidement et qui évolue vers plus en plus de gigantisme. Le monde du live, le monde du concert, avec des salles remplies malgré des prix parfois élevés pour applaudir les plus grandes stars internationales. Tenez, par exemple, Justin Timberlake qui sera cette semaine, deux soirs à l'Accor Hotel Arena. Oui, des salles qui elles-mêmes change de visage, hein, de physionomie avec ces fameuses arénas, vous savez, à la fois stade, salle de concert, lieu de vie. C'est un business qui se réinvente totalement dans un monde qui se concentre de plus en plus, parfois même aux mains des grands géants américains. Alors, concert, festival, est-ce le nouvel Eldorado ? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Oui, avec les plus grands acteurs, les plus grands experts du secteur. Tenez, Nicolas Dupeux est avec nous, directeur général de l'Accor Hotel Arena, qui va donc accueillir ce mardi et ce mercredi Justin Timberlake. Avec nous également, Yvan Boudillet, il est fondateur de la société de conseil The Link, professeur à l'EMIC, l'école de management des industries de la musique, spécialisé dans les innovations dans la musique, grand acteur du secteur, puisqu'il est un ancien de Warner et EMI. Arnaud Merceman, directeur d'AEG Present France, et le numéro 2 mondial dans l'organisation de concerts AEG qui s'implante de plus en plus en France. Avec nous également, Thomas Desarnaud, directeur du département musique de Avasport Entertainment, et puis Alexis de Gemini, lui aussi grand acteur de son secteur dans le streaming, puisque c'est le directeur général de Deezer en France. Alors tiens, Nicolas Dupeux, donc Justin Timberlake, comment il s'est retrouvé à l'Accor Hotel Arena? Parce que j'imagine n'étiez pas le seul à le demander pour cette semaine.
Alors Justin, ça va être un très gros concert, hein, de l'année. Là, on a deux dates, demain soir, mardi, mercredi.
Deux fois 20 000, j'imagine, tout est rempli.
On est un peu moins parce qu'il y a une très grosse scéno.
D'accord.
Trois scènes.
Donc ça
scène
manche.
Centrale, voilà, ouais. Ça prend un peu sur la place et la dispo. C'est l'un des plus gros shows qu'on va avoir. On a 32 semi-remorques de matériel qui sont arrivés pour le montage. Donc ça sera notre plus gros montage de l'année.
C'est-à-dire que chaque artiste vient avec sa logistique.
Avec sa logistique, ses camions, avec souvent les choses déjà un peu prémontées pour gagner du temps sur le montage.
Parce que vous avez de quoi faire, vous, quand même, à l'Accor Hotel Arena, justement, en matière de logistique.
On a de quoi faire pour les accueillir, mais c'est vrai qu'on parle de tournée. Donc, en fait, c'est des kits qui tournent d'une arena vers l'autre.
32 semaines.
Voilà, donc ça va faire, en tout cas, notre plus gros dispositif de l'année. Jusqu'au prochain, certainement, sur U2 à la rentrée.
C'est cette semaine, ouais, U2, ça sera au mois de septembre.
Tout à fait.
Également, familier de l'Accor Hotel Arena. Tiens, oui. D'ailleurs, justement, dites-moi, Arnaud Merceman, Thomas Desarnaud, entre grandes salles internationales, l'Accor Hotel Arena, il y a la U Arena depuis peu de temps, depuis le mois d'octobre, juste à côté de la Défense, il y a le Stade de France également. Comment se fait la bataille entre grandes salles? Comment attirer des concerts? Par exemple, tiens, bah, dites-moi, Arnaud Merceman, vous à la tête d'AEG.
On est sur des catégories différentes. Après, un groupe qui va jouer sur le Stade de France, comme l'expliquait Nicolas, vient avec des kits qui sont faits pour le stade. Un groupe qui vient pour l'aréna va venir avec un kit pour l'aréna, en fait. Donc, la concurrence, elle n'existe pas vraiment entre l'Accor Hotel Arena et le Stade de France. On est sur des trucs qui sont assez normés, qui sont assez standardisés. Les arénas font à peu près toute la même taille en Europe. On est sur des jauges d'environ 15 000 personnes. Les stades, idem. On est sur des jauges en configuration concert aux alentours de 75 000 personnes. Donc, à Paris, on est quand même sur un marché où l'aréna vraiment domine ce marché-là. Est quasiment presque l'unique salle, mais comme ça peut être le cas aussi à Londres avec le O2, ou comme ça peut être le cas à Berlin avec la Mercedes-Benz Arena, où il y a quand même une salle qui est établie, qui est en place et qui domine un peu de manière unique chaque marché.
Ah ouais, mais j'imagine quand même, Yvan Boudillet, entre par exemple la U Arena à Nanterre qui vient d'arriver et l'Accor Hotel Arena qui s'est complètement transformé depuis 3 ans, l'ancien POPB, voilà, pour les plus jeunes, bien sûr, les plus anciens, je veux dire, et je pense que ça reste aux plus jeunes. Comment ça se fait, il y a une guéguerre ou pas?
Il y a une guéguerre, oui, forcément, il y a une guerre qui peut être économique.
Avec quels arguments, alors?
Mais aussi une proposition de service, il y a une proposition d'expérience, ouais. Et qui va aussi coller avec une volonté d'un artiste de proposer une mise en scène qui peut être particulière. Je pense notamment à la Urena qui essaie de jouer aussi sur ce mapping vidéo. C'est des, il y a certains artistes qui vont arriver avec ce type de propos artistiques qui trouveront sûrement un écho particulier, ce que aussi la Quarantena propose. Il y a aussi forcément des enjeux liés à des deals, liés à des deals qui sont maintenant à l'échelle internationale. Il y a des gros acteurs.
On va en parler, il y a la Nation, il y a AEG, évidemment, qui est le numéro 2 mondial également. Qui est avec
la France est une étape semaine. En général. Nicolas parle à juste titre de tournée. Ce sont des plans qui se passent sur plusieurs pays, donc avec des enjeux qui peuvent aussi se passer à niveau de groupes internationaux, dont les salles et les grandes salles sont des étapes dans ces...
Oui, c'est des achats globaux maintenant, hein, où on va acheter en bloc une cinquantaine ou une soixantaine de dates auprès de l'artiste et qui après seront dispatchées sur tous les territoires.
Ce que disait Yvan Boudillet très, très justement, c'est le service que vous allez apporter. Comment la concurrence, finalement, elle vous oblige à vous surpasser, à innover? Qu'est-ce que vous apportez? Qu'est-ce que vous dites à Justin Timberlake ou d'autres, U2 ou Britney Spears, qui va bientôt venir vous voir aussi? Allez, c'est chez moi qu'il faut venir, dans le 12e arrondissement et pas ailleurs.
Il y a plusieurs points, en fait. Hein. Le premier, donc, on parlait tout à fait un kit stade ou un kit arena, mais il y a aussi, à l'Accor Hotel Arena, on va avoir 35 ans l'année prochaine, et les artistes, ce qui les intéresse aussi, c'est la relation de confiance. C'est la référence. Savoir qu'ils vont pouvoir faire une date chez nous, c'est une référence. C'est aussi un signe, ils se sentent bien, ils se sentent proches du public, ils se sentent rassurés. Donc ça, c'est des points qui sont très importants. Le deuxième, c'est qu'on a aussi des relations, nous, qui sont longues, avec les producteurs. Donc c'est une relation tripartite entre artistes, producteurs, promoteurs et puis salles. Et ces relations qu'on entretient depuis plusieurs années, ça contribue aussi à ce que les artistes viennent chez nous. Et puis le dernier point, on en parlait tout à l'heure, c'est effectivement l'avenir, c'est le futur, c'est le spectateur. On passe d'un spectateur qui vient voir un show à un spectateur actif,
qui vit,
ouais. Un spectateur qui vit. Et donc nous, toute la transformation sur laquelle on travaille à l'Accor Hotel Arena, c'est cette transformation d'un lieu d'événement en un lieu de vie dans lequel on vient vivre quelque chose, dans lequel le spectateur va vivre une expérience. Donc on va travailler sur son parcours en amont, en aval aussi du show, pour amplifier ce contenu du spectacle.
Et grâce au digital, on y reviendra largement, puisqu'on a notamment...
Principalement,
bien sûr, Alexis Gemini, directeur général de Deezer France. Vous avez l'impression, tiens, Alexis Gemini, Thomas Desarnaud, qu'on assiste en ce moment à un nouveau visage pour les concerts, pour le live, des nouveas acteurs, des grandes stars, une nouvelle expérience. On est à un tournant quelque part. Allez, Thomas Desarnaud, Havas Entertainment, Sport et Entertainment.
Si on le met en perspective, on s'aperçoit que quand il y a eu la crise du disque, qui était le revenu majeur, qui drivait l'économie de la musique, les acteurs ont cherché un petit peu à se restructurer, à chercher d'autres sources de revenus. La plus évidente, la première, ça a été le live. Et donc du coup, il y a beaucoup d'investissements qui ont été mis là-dedans. Il y a des groupes qui se sont constitués. On parle de Live Nation, de AG. Aujourd'hui, Live Nation, c'est plus gros qu'Universal. Hein. Donc c'est devenu le business principal. Mais c'est en constante évolution. C'est-à-dire que c'est une révolution technologique qui a tué le disque. Puis le streaming est en train d'arriver, rechange ça. Le live a pris le relais. Et puis on voit que la tendance de fond, que ce soit dans le live, dans la musique, dans les applications, c'est que le public soit de plus en plus dans l'interactivité. Donc aujourd'hui, aller voir un live, c'est plus aller voir de la musique, c'est faire une expérience. Et donc tout est mis là-dedans, tous les investissements sont mis là-dedans, aussi bien par les acteurs, les artistes et même les marques.
Hein. Alexis Gemini, c'est vrai, on parle de grandes stars, hein, les Stones à la U Arena qui avaient inauguré donc cette nouvelle salle au mois d'octobre. Demain donc Justin Timberlake avec Nicolas Dupeux à la Accor Hotel. Des grandes stars, des prix élevés. On joue de plus en plus sur le caractère unique, rare, le caractère de l'expérience.
Oui, je crois que sur le plan sociologique, ce qui est intéressant, c'est de constater l'essor du streaming et en parallèle du live. C'est comme si, d'une certaine manière, d'un côté, les personnes peuvent accéder comme jamais auparavant à toute la musique du monde, sur leur téléphone, sur leur ordinateur. On est dans une relation dématérialisée. Hein, le CD, le vinyle, quand même créé à travers notamment les pochettes de disques, aussi un rapport à l'artiste qui, lui, s'est dématérialisé. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? En tout cas, il y a ce phénomène sur lequel et à l'origine duquel Deezer est notamment. Et en parallèle, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, le grand public a besoin de live, a besoin d'émotions, a besoin d'interaction avec son artiste préféré. Je note aussi que les télévisions ont un peu abandonné la musique, qu'il y a moins de grands shows de variété, et que donc finalement, pour le grand public, le moyen d'accéder à cette émotion, à ce moment très particulier, c'est le live. Et là, on parle des grandes arénas, on parlera sans doute aussi des festivals qui sont eux-mêmes en explosion. Et pour finir aussi,
1800 festivals en France tout au long de l'année.
Puisqu'on est dans les décodeurs de l'écho, c'est vrai que aussi le live est une source très importante de revenus pour les artistes. Je prendrai un artiste par exemple comme Johnny Hallyday, on en a beaucoup parlé. C'est quelqu'un qui interprétait ses chansons mais qui ne les écrivait pas. Donc il avait des sources de revenus essentiellement en tant qu'artiste interprète. Mais en revanche, sur toutes ses tournées, il gardait 80% des recettes pour lui. Jean-Claude Camus, son producteur, en gardait 20. Et c'est grâce à ce business-là que Johnny Hallyday gagnait énormément d'argent. Donc pour un artiste, le live, c'est un pendant de plus en plus important à la vente historique de support physique, maintenant au streaming.
C'est vrai ce que nous disait tout à l'heure donc Thomas Desarnaud, Yvan Boudillet, quelque part. Avant, vous avez des concerts pour vendre des disques, hein, très bien. Maintenant, quelque part, ça devient... Est-ce que ça devient la première rentrée financière pour un artiste ?
Ça dépend du type d'artiste. Ouais. Bon, c'est quand même... tout ça est assez contrasté. C'est vrai que quand j'ai commencé à travailler en label, on avait quelque chose qui s'appelait le tour support. Donc, on aidait au financement de la promotion et du marketing des tournées qui avait un impact positif sur la promotion des disques, de leur sortie album. Aujourd'hui, c'est des choses qui peuvent être aussi faites main dans la main entre les acteurs. Il y a des collaborations qui peuvent être faites entre chez Decibel et Warner, par exemple, qui sont deux maisons qui se collaborent, qui font partie du même groupe. Il y a un vrai sujet de traitement simultané du marketing, de la data. Mutualiser les coûts, c'est quand même aussi intéressant.
Decibel, par exemple, gère les concerts d'une trentaine d'artistes à peu près, comme Christophe Maé, comme Soprano, comme oui. les Kids United, justement. Et qui s'est fait quelque part un nom en quelques années justement.
Mais c'est-à-dire que il faut comprendre aussi qu'il y a un cycle, avoir un public devant soi à l'échelle de ce qu'on voit dans une arène, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc avant de parler des grands montants et des grands revenus, il y a tout un cheminement très long, très fastidieux, avec de la sueur et du sang, si vous me passez l'expression, sur les petites salles. Et c'est d'abord des métiers qui sont en jeu, donc des investissements. Et pas forcément que des revenus. Mais c'est ça aussi un des sujets.
C'est vraiment une façon de compenser la moins bonne santé du disque depuis 10 ans, globalement, si on voit les 10 dernières années. Alors que depuis 2 ans, on voit, bon, ça reprend un petit peu. C'est une respiration de bon aloi pour des acteurs comme Vivendi, par exemple, voilà, puisque Vivendi également est une filiale de concert. Est-ce que quelque part, voilà, est-ce que pour Vivendi et Universal Music Group, quelque part, finalement, heureusement qu'ils ont les concerts aussi, c'est ça?
Encore une fois, je pense que c'est une complémentarité. Ouais. C'est pas juste en bas de ligne un substitut, comme le streaming et le digital, à un moment, a été vu comme une compensation à la chute du physique. Je pense qu'il faut voir ça comme un complément. Sinon, on n'arrive pas à se projeter vers le vrai enjeu qui va être autour de l'expérience et qui va être au sujet de la data. Si on voit tout de manière séparée comme un conflit entre des différentes zone et ça va pas fonctionner, et je pense même le fan ne va pas ressortir gagnant ni l'artiste. Ça c'est un des sujets.
Pas de cloisonnement, au contraire. Voilà, c'est ça. Voilà. Tout est très poreux finalement, comme on le voit dans d'autres secteurs, bien sûr, la distribution, l'automobile, etc. Qui prend la parole? Alexis Gémini, oui. Deezer, et juste après Arnaud Merzmann.
Ce qui est intéressant d'expliquer pour autant à nos auditeurs, c'est qu'il y a une grande dichotomie entre les producteurs de disques, donc ceux qui produisent le morceau qui va être diffusé sur Deezer, et les producteurs de concerts, même s'il y a une consolidation du marché. Ces deux métiers qui historiquement sont très différents.
C'est quoi les passerelles entre le monde du live, les concerts, dont certains ici sont des acteurs très brillants, Accor Hotel Arena ou AEG, et puis le streaming, vous, Deezer?
Alors, nous, la passerelle, c'est que nos clients, ceux qui s'abonnent à Deezer, sont aussi des grands consommateurs de spectacles, et donc sont des grands clients pour l'Hôtel Accor Arena, pour AEG. Donc, pour nous, ce sont des lieux d'expression et de communication de la marque Deezer, et aussi de fidélisation de nos clients. Là, on a fait un partenariat avec l'Hôtel Accor Arena. On a envie de proposer à nos clients d'avoir un coupe-fil pour pouvoir rentrer plus vite au concert, un accès au Wi-Fi qui est sponsorisé par Deezer dans l'espace. Même on a essayé d'occuper un petit peu l'espace des artistes pour leur montrer qu'on est présent, y compris au plus près de ce moment critique qui est celui de la scène. Parce qu'encore une fois, enregistrer un disque et être sur scène, c'est deux métiers totalement différents. D'ailleurs, il y a des artistes qui ne peuvent pas faire les deux. Mais ce qui est certain, c'est que nous, nos clients, ils sont souvent à la fois streamers et ils vont dans les concerts.
Et puis le streaming aussi, ça permet peut-être à des plus jeunes de découvrir peut-être des vieilles stars, hein. Bon, les Stones par exemple, c'était Johnny Hallyday par exemple, bon, lorsqu'ils se produisaient régulièrement. C'est un outil très utile aussi, hein. Il n'y a pas que les parents qui font découvrir les U2, les Stones, etc.
Non mais écoutez, j'étais ce week-end, enfin le week-end dernier, il y avait Solidez qui est un des plus grands festivals français, 80 000 personnes par jour, je crois. 200 000 sur 3 jours. Ouais. Bon, mes enfants avec qui j'étais ont découvert une partie des artistes qui étaient là, comme Damso par exemple, sur Deezer. Et puis après, ça leur donne vraiment envie d'aller voir l'artiste en live. Et là, il y avait une communion entre le public, les artistes. Mais il y avait aussi IAM qui a clôturé. Donc il y avait pour nous, les plus âgés, cette reconnexion avec des gens qu'on adore. Et c'est génial d'écouter leurs disques, mais c'est aussi génial d'aller voir sur scène. Ouais, et on a besoin des deux. En tout cas, je crois que quand on aime la musique, c'est deux émotions complémentaires.
Ça fait 25 ans, IAM.
25
oui,
ans.
Oui, oui. Arnaud Merzmann.
Oui, moi, je pense que le streaming a surtout aussi aidé à mondialiser le terrain de jeu un petit peu, parce qu'avant, on allait acheter son album, on était coincé sur un marché national, alors qu'aujourd'hui, ça ouvre vraiment des espaces mondialisés. On l'a vu notamment avec Despacito, qui a franchi le milliard de vues. Et c'est la première fois qu'un morceau en espagnol arrive à atteindre ça. On le voit arriver avec toute la vague du reggaeton, toute la vague latine en ce moment, des superstars brésiliennes comme Anita qui streament des millions et des millions. Et tout ça, c'est grâce au streaming et ça permet d'ouvrir les marchés et d'ouvrir à d'autres cultures.
Nicolas Dupeux, l'Accor Hotel Arena.
Oui, pour compléter ce que disait Alexis sur le streaming, c'est que nous, ça nous a permis aussi d'offrir, tout à l'heure je parlais d'expérience client. En fait, on a développé un player que l'on met sur notre application, un player Deezer, et en fait on peut télécharger la liste et les morceaux de l'artiste qui va performer le jour même à l'Arena. Donc en fait, on reboucle un peu cette boucle entre le physique, le digital et un peu ce qu'on appelle le figital finalement, qui vient s'incarner dans l'expérience. Et c'est ça qu'on donne aux spectateurs finalement. C'est, il va voir un live, il vient voir de l'émotion, c'est ce qu'il vient vivre, mais on va lui donner ce plus en fait, qui fait que son expérience, elle va être sublimée. Et c'est là où est l'avenir, c'est justement c'est de travailler sur tous ces petits moments où le spectateur, en fait, on va le surprendre et on va lui offrir quelque chose de plus.
Il y a du wifi partout. Ça fonctionne bien le wifi.
Il y a du wifi partout.
Il y a 20 000 personnes dans la salle.
Ça fonctionne très bien, les investissements ils ont été très lourds là-dessus. Je dirais qu'aujourd'hui, l'infrastructure fonctionne très bien. Notre défi de demain, c'est plus derrière sur le soft, la data, l'analyse de la data, l'utilisation de la data, et d'être en fait vraiment pertinent. C'est-à-dire que c'est facile de dire qu'on a des millions de spectateurs, qu'on accueille du monde. L'essentiel, c'est de savoir qui on accueille, quelles sont leurs habitudes, leurs comportements, qu'est-ce qu'on leur propose, mais de personnaliser.
Bah, c'est juste, je vous donne la parole tout de suite, Yvan Boudier, mais c'est vrai, Alexis Gemini, donc les usages infinis de l'intelligence artificielle, la data dont parlait tout de suite Nicolas Dupeux, le patron de l'Accor Hotel Arena, vous en servez aussi, vous, chez Deezer, pour suggérer, recommander des artistes qu'on ne connaîtrait pas.
Oui, tout à fait. Ça, c'est le cœur de notre métier. D'accord. C'est la différence avec le métier de la vente de CD historique. C'est qu'on est capable de recommander des nouvelles écoutes musicales basées sur les écoutes historiques de nos clients. On fait ça à la fois avec des algorithmes et de l'intelligence artificielle, mais on fait ça tout simplement aussi avec de l'intelligence humaine. D'abord, n'oublions pas que l'intelligence artificielle, elle est programmée par des individus, donc elle est pas si artificielle que ça. Et par ailleurs,
elle-même.
Voilà. Mais elle est quand même encadrée par des experts. Et par ailleurs, on a, nous, chez Deezer, vraiment une volonté, c'est qu'une partie de la recommandation vienne vraiment de nos oreilles à nous. Donc on a 50 personnes dans le monde qui écoutent toute la musique et qui influencent en fait les algorithmes. Un algorithme est idiot s'il n'est pas nourri. Nous, on les nourrit et c'est vrai que pour rejoindre ce que disait Nicolas, l'enjeu c'est d'essayer de donner plus d'intelligence à la technologie, mais elle part toujours d'un être humain, d'une émotion, d'un instant et heureusement.
Yvan Boudillet, The Link.
Oui. Un point pour rejoindre ce que dit Alexis, c'est vrai que à 10h on prend un parti pris fort sur la recommandation avec l'humain au cœur, mais ce qui est intéressant c'est comment l'AI et les technologies peuvent amplifier ces capacités-là de traitement, et à l'échelle d'une salle, on est moins sur des sujets de recommandation, c'est plus sur les festivals qui ont cette mission-là aujourd'hui, de découverte et de diversité, et ça on pourra en parler plus tard.
Bien sûr.
Mais c'est vraiment sur ce service client, cette expérience utilisateur, qui va être un enjeu extrêmement important, même il y a des enjeux de sécurité, il y a des expérimentations qui se font aujourd'hui sur la reconnaissance faciale, avec un traitement en temps réel, pour... améliorer le trafic, éviter les fils, éviter les goulots d'étranglement, plein de sujets qui vont améliorer tout ça.
Qui rôdent et qui devraient pas être dans une salle avec 20 000 personnes aussi. Voilà, c'est bien.
Tout ça est très nuancé, c'est complexe, mais la technologie elle pourra améliorer ce traitement de la complexité.
Juste avant qu'on voit comment ce secteur se concentre de plus en plus, comment expliquer que les salles sont remplies malgré des prix quand même assez élevé, hein. Donc les Stones, donc à la U Arena, je crois qu'il fallait compter pour certains un billet jusqu'à 300 €, hein. C'est combien Justin Timberlake mardi et mercredi à la Corotel Arena?
Il y a plusieurs gammes de prix en fait. Ouais.
Bon, il y a Katy Perry, il y a YouTube. Qu'est-ce qu'il cherche le spectateur qui ne va pas hésiter à payer cher comme ça pour un ticket? C'est le meilleur service, les meilleures places, un package VIP, c'est quoi?
Moi, je crois que ce qui fait le succès, c'est cette rencontre directe avec l'artiste, en fait. Mmh. C'est ce qu'il va vivre. Aujourd'hui, on a besoin de revenir, je dirais, à des fondamentaux qui sont de vivre la musique en direct. On la vit, effectivement, via le streaming, etc. Mais on a besoin de temps fort, de la vivre, de partager aussi cette émotion. Après, on la partage soit en faux, soit en gradin. Ça dépend de la manière dont on veut le faire. Mais il y a une vraie envie là-dessus. Et puis, c'est aussi un moment de plaisir. C'est-à-dire que passer un moment dans une salle de concert, vous repartez de là, ça fait du bien, en fait. Ça donne le sourire, ça fait du bien. Et après, c'est ce qu'on disait, c'est vrai que nous, le plus qu'on va rajouter, c'est le service, c'est l'expérience, qui lui est pas forcément quelque chose qu'on monétise, mais quelque chose qu'on offre, en disant, ben, au-delà du concert, on va vous faire vivre un bon moment.
Thomas Desarnaud Havas, Sport Entertainment.
Si on veut regarder le public et qu'est-ce qu'il va chercher, enfin c'est notre métier, hein, chez Havas Sport Entertainment, donc on le scrute tout le temps, on a pas mal d'études. C'est intéressant parce que c'est la première passion des Français, la musique. On est à 97% de gens qui aiment, donc il y a forcément des profils différents, mais tous passent par toutes les étapes du parcours. Donc il y a le streaming. On découvre, on aime. Et dans le streaming, ce qui est bien, c'est qu'on aime, mais aussi on revendique. On publie ses playlists, on dit qui on est, on dit « voilà ce que j'écoute, tu sais qui je suis ». Et ça, c'est une vraie fonction importante. Et puis après, il y a l'émotion, l'expérience, comment je retrouve les gens. Mmh. Et là, c'est les festivals, c'est les arénas. Et même l'essor du vinyle, c'est lié à ça. C'est comment je retrouve dans le monde réel la revendication que j'ai eue sur le monde digital, sur le streaming. C'est quelque chose de matériel, une expérience, enfin, une expérience physique. Je rencontre les artistes, je les vois en vrai, je participe et je partage. Ouais. C'est ça qui est intéressant à utiliser.
Et c'est ça aussi, Arnaud Merzmann, vous à la tête d'AEG en France, hein, qui est le numéro 2 mondial dans la gestion des salles de concert. Vous avez des artistes, hein, dans votre catalogue. Vous avez Justin Bieber, Céline Dion,
Shawn Mendes, Elton John,
Katy Perry, Stone, etc. Ouais, vous avez des stars mondiales, justement. Comment est-ce que vous assurez comme ça la répartition dans les salles de concert? Quel deal vous passez avec les artistes? Vous leur dites, vous leur expliquez ce qu'ils vont trouver à la Corotel Arena, ce qu'ils vont trouver à la U Arena. Bon, la Corotel Arena, ce qu'il faut préciser, vous avez pris le tiers du capital, hein, voilà.
Oui,
voilà.
Exactement.
Qu'est-ce que vous y trouvez exactement?
Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, en fait, sur des gros artistes comme ça, on est sur de l'achat en bloc de dates, on va dire, où on va avancer une certaine somme d'argent à l'artiste contre un certain nombre de dates. Après, ces dates-là vont être réparties sur chaque territoire, ouais. Dépendant la demande, dépendant ce qu'on peut attendre, et à nous après de rentrer dans nos frais. Talent Label, par exemple, qui avait signé un artiste. Ouais. Et qui va ensuite distribuer par ses filiales sur chaque territoire. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec des acteurs mondialisés comme AEG et Live Nation le sont.
Et qu'est-ce que vous proposez justement comme panoplie de services à un artiste? Vous avez signé avec Céline Dion, avec Justin Bieber et Katy Perry. Vous les voyez, vous leur dites quoi justement? Qu'est-ce que vous leur proposez?
Ben c'est un service clé en main.
Vente de billets, management, marketing, c'est...
Alors le management, non, c'est séparé parce que l'artiste garde son représentant à lui. Mais nous, on va monter toute la production, on va gérer toute la logistique, toute l'organisation, le marketing autour de la tournée. On va tout monter de A à Z et l'artiste n'aura plus à rien à gérer de son côté.
J'ai cité des grandes stars internationales. Mmh. Vous cherchez aussi à vous créer un catalogue français?
Le développement, c'est... primordial. Oui, on crée un catalogue français. Nous sommes en train de signer des artistes français. On veut être un acteur important sur le marché domestique. On veut travailler main dans la main avec des artistes français. Pour nous, la filière musicale française est primordiale. On veut s'insérer dedans et on veut travailler avec tous les acteurs et faire du domestique et du local.
Il y a un écosystème en France qui est vivace.
Ouais, il y a un écosystème
mieux,
assez particulier.
Qu'ailleurs en Europe, par exemple.
Oui, oui, oui. Bah, on parlait des festivals tout à l'heure. Vous aviez dit 1800 festivals, oui, en France.
Avec l'été qui arrive, la saison d'été, on parlait de Solidaise là tout de suite.
La spécificité de la majorité des festivals comparés aux États-Unis ou l'Angleterre par exemple, c'est que la majorité des festivals français ne sont pas privés entre guillemets. C'est souvent des associations ou des mairies qui gèrent ces festivals. Les festivals produits par des privés sont vraiment une minorité et l'exception en France, contrairement à l'Angleterre où Live Nation et AEG se partagent le marché. marché en gérant la majorité des festivals.
Live Nation a créé Lollapalooza donc à Paris. Vous allez aussi en créer vous-même à EG en France?
Bah pour le moment nous sommes dans Rock en Seine, nous sommes
oui,
nous sommes propriétaires
la moitié
de
avec Mathieu Pigasse,
Je suis programmateur de Rock en Seine aussi. Oui, il y a la volonté de continuer à créer des festivals. Paris commence à être un petit peu embouteillé, il y a peut-être des choses à faire en région.
Il y a trop de festivals.
Il y a beaucoup de festivals à Paris, oui.
On est passé en général en France.
Il commence à y en avoir un peu trop. Je m'attends à une correction du marché à un moment ou une autre. Là, il y a beaucoup trop d'offres. Et puis surtout, dernière chose, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, l'expérientiel devient vraiment hyper important sur les festivals. Ça suffit plus de mettre deux scènes dans un champ. Aujourd'hui, faut offrir tout un service autour avec de la gastronomie, de la VR, des activités annexes, de la garde d'enfants. Il y a plein d'autres choses à construire autour d'un festival. Et aujourd'hui, juste aligner des têtes d'affiche dans un champ, ça suffit.
Ça suffit pas. Bon. En attendant les festivals de l'été, il y a demain soir, et on va revenir dans deux minutes sur BFM Business, il y a Justin Timberlake à l'Accor, Hotel Arena, énorme artiste, 32 semi-remorques pour accompagner donc l'Américain. On revient vite avec les décodeurs de l'écho, à tout de suite, on l'écoute.
1, 2, 3.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Oui, les concerts, les festivals, le nouvel Eldorado. Oui, alors que vont démarrer eh bien tous ces festivals d'été, alors que les grands concerts eh bien se poursuivent dans les grandes salles. Oh, il n'y a pas que Paris, pardon, si on ne parle que de Paris. C'est vrai, il y a des arénas également à Nice, à Lyon, évidemment, le nouveau stade. Il y a des belles salles à Bordeaux aussi, qui a le stade de Bordeaux, bien sûr. Et on voit le business des concerts avec ce business qui se réinvente complètement, accaparé de plus en plus par des géants. On a la chance d'être ce soir notamment avec Arnaud Mersman, le directeur d'AEG en France, numéro 2 mondial dans l'organisation de concerts. C'est un groupe américain, tout comme le leader, c'est Live Nation, qui a à peu près 30 000 concerts par an avec des contrats signés avec Madonna, U2, Jay-Z, Beyoncé, etc. Bon, on voit comment est-ce que vous implantez de plus en plus. On voit les grands groupes de tournées monter en puissance. Live Nation qui a pris le contrôle de Jackie Lombard Productions il y a une dizaine d'années. On voit vous prenez des participations à EG, donc Rock en Seine, avec Mathieu Pigasse, vous nous le disiez. Un tiers de l'Accor Hotel Arena. Tiens, est-ce qu'on peut parler d'industrialisation du secteur? Qui m'en parle? Thomas Desarnaud, Yvan Boudillet. Allez, Yvan Boudillet, à la tête de la société de conseil The Link. Industrialisation ou pas du secteur?
Oui. Aussi parce qu'il y a une mise en place, il y a une systématisation des moyens et des techniques et notamment du marketing qui va avec. Je pense qu'il y a un sujet important pour nuancer le propos entre, moi je veux pas être sur le bien ou le mal, mais cette concentration, en tout cas cette montée en puissance des acteurs, elle a un bienfait, c'est qu'elle apporte des nouveaux moyens, des capacités d'investissement pour passer à l'échelle des... Bah maintenant, on est sur des échelles mondiales. Ouais. Tout à l'heure, on voyait que ces tournées, elles se jouent à grande échelle, à l'international. Et si on veut avoir des artistes de renom en France, il faut aussi passer par cette case-là.
Pardon, avant, il y avait quand même des
oui, il passait déjà.
Moi, j'ai vu George Michael, par exemple. Bon, compte tenu de mon grand âge, je les ai tous vus. Il venait quand même en France.
Il venait quand même.
Bah oui.
Sauf que, bon, aujourd'hui, il y a des nouveaux festivals qui se créent. Il y a des nouvelles expériences qui sont offertes.
Donc, l'union fait la force.
Sauf qu'il y a aussi un autre enjeu en parallèle qui lui est moins économique mais plus sur la diversité qu'on pourra se aborder, même si on est sur un sujet économique, mais c'est ça je pense une des questions qui se pose, qui existe aussi dans le monde des labels, de la production, de là où je viens il y a 2 ans de cela. Il y a des acteurs, il y a des majors
de IMI, voilà. Je veux le rappeler, hein.
J'ai travaillé dans des industries musicales et ça n'a pas empêché d'avoir une démarche autour d'artistes en développement. La preuve est que AEG et Live Nation, moi j'étais dans une conférence avec Duprodis la semaine dernière. Angelo Gopé, le dirigeant, a aussi fait, a à donner des messages forts autour de la du développement d'artistes. Donc à un moment, soit ce sont des vœux pieux, moi je pense que ce sont des vraies stratégies, et de toute façon c'est un besoin. On peut pas aujourd'hui continuer à cette échelle-là sans renouveler le catalogue et le roster. Donc de toute façon, il y aura des effets positifs, il y aura des effets potentiellement à surveiller, potentiellement avec de la régulation. Moi je pense que c'est le marché qui va réguler, et c'est surtout, je pense, les consommateurs, la demande, parce que c'est eux qui ont la voix, et je pense à Alexis peut aussi en témoigner.
Alexis de Gemini, le directeur général de Deezer.
Oui, et je voudrais compléter en disant qu'à la fois, il y a cette concentration et ces grands groupes américains, et il y a aussi quand même cette extraordinaire force de l'artisanat français. Je voudrais quand même qu'on parle aussi deux minutes, par exemple, du Hellfest, qui est le plus grand festival de métal d'Europe. C'est une création extraordinaire. J'invite tous ceux qui n'aiment pas le métal à y aller. Moi, j'étais pas un grand fan, mais je n'ai jamais vu autant de ferveur, de plaisir, de musique, de bruit aussi. C'est 200 000 personnes pendant 3 jours. Mais il y a aussi les Hurricanes de Belfort. Il y a effectivement les Vieilles Charrues. Il y a bientôt les Hurricanes, c'est le week-end prochain. Tout ça sont, comme il a été dit par vos invités, des associations. C'est organisé au niveau local. Et c'est aussi, je crois, très intéressant qu'il y ait cette complémentarité entre les grands groupes qui peuvent industrialiser des tournées mondiales et encore des acteurs locaux français qui arrivent à avoir des plateaux très impressionnants avec une expérience qui progresse aussi. Et ça, c'est à noter.
Arnaud Mertzmann, AEG.
Sur le sujet des festivals, il y a quand même quelque chose d'assez nouveau et assez récent qui est vraiment le marqueur de cette industrialisation. C'est la franchisation des festivals. Avant, un festival, c'était créé par des passionnés sur un territoire, c'était ancré localement. Maintenant, aujourd'hui, on a 8 Lollapalooza dans le monde, 5 downloads. Enfin, au bout d'un moment, c'est une franchise comme Starbucks ou McDonald's. On vient, les artistes connaissent la marque, ça leur parle. Et on en ouvre un peu dans tous les pays. Ce qui amène des homogénéisations de programmation, parce qu'il va y avoir des achats en bloc pour Lollapalooza. On va acheter 8 dates de la même tête d'affiche sur les 8 Lollapalooza.
Et l'artiste lui-même est content parce que
exactement, parce qu'au moins son été est fait, ça y est, c'est fini.
Oui, ce qui est aussi une menace donc pour les festivals français qui eux n'auront plus forcément cette force de frappe globale. Je pense qu'il y aura peut-être un sujet là.
Exactement. Justement, et vous avez raison. Quid des Hurricanes? Moi, je suis allé aux Hurricanes dans les années, il y a quoi, une bonne vingtaine d'années. Bon, très bien, j'ai vu ça. Je cite Madame Nissen, la ministre de la Culture, qui se pose la question, qui dit voilà, c'est vrai que beaucoup s'inquiètent chaque fois qu'on voit la bannière étoilée qui se déploie quelque part. Cette concentration du secteur, dit Madame Nissen, met directement en risque la diversité culturelle et elle entraîne un dérapage des prix qui nourrit les inégalités d'accès à la culture entre les Français. Jack Lang également. Alors bon, je pense qu'on vote Jack Lang, mais lui dénonce l'invasion des multinationales américaines dans la vie musicale française. Qu'est-ce que vous répondez justement? Qu'est-ce qui reste comme place aux indépendants, aux festivals en province? Thomas Desarnaud, Avasport Entertainment.
Si on regarde un peu ça d'un peu plus haut, c'est comme sur les labels. Effectivement, il y a les 5 majors, il n'y en a plus que 3. Mais il y a toujours eu des labels indépendants, c'est les labels indépendants qui fournissent la richesse et la diversité musicale. On parle de grands acteurs, mais on a la chance d'avoir une superstar, Deezer
qui est française,
et qui est peut-être le streamer qui a le plus large panel de titres. Donc, il y a une vraie diversité. Moi, j'aime bien quand on dit c'est l'industrialisation, mais c'est l'industrialisation faite par des artisans. C'était la même chose sur les labels. On a schématisé des process, c'est mondialisé, mais ça reste un métier de passionné avec des programmateurs qui aiment la musique, qui la font découvrir. Et là, on parle des gros festivals, mais on a aussi cette richesse d'une scène multiple, c'est-à-dire qu'il y a énormément de salles de 300 personnes chez Vivendi. Ils ont le Théâtre de l'Œuvre et ils ont l'Olympia. Et puis il y a une échelle pour chacun des acteurs.
Il y a de la place toujours pour les films à lag, pour les Lagardère Live Entertainment, pour vente privée qui dans le théâtre aussi, pareil, on voit qu'ils rachètent un certain nombre de salles. Comme vous, les grands acteurs, comme Live Nation, AEG, vous rachetez des grandes salles à New York, à Los Angeles, à Londres également. Live Nation qui veut mettre la main sur un certain nombre de zéniths en France. Bon, on voit toute cette toile qui se tisse. On voit ces grands acteurs américains qui mettent la main sur des festivals, des artistes, des salles. Et quoi la suite? Alors, Yvan Boudillet.
Une des suites, c'est aussi l'accès aux fans, l'accès aux consommateurs, donc la billetterie. Et c'est pas nouveau. Live Nation qui déjà intègre Ticketmaster, qui est le leader mondial de la vente de billets. Vente privée qui opère With Event, qui est une solution pour la vente de billets dématérialisés et aussi le cashless dans les festivals, qui sont le leader en France, si je me trompe pas, du cashless. et j'en passe, et Vivendi avec Digitik, et etc., etc. Donc c'est un peu ce triangle entre le contenu, les artistes, donc le catalogue d'artistes qu'on représente, les salles, et les moyens de distribution de la billetterie. Je pense qu'un des acteurs clés qui va être au centre de ce jeu, ce sont aussi les plateformes, ce sont les Deezer, les Spotify. Spotify, il y a quelques semaines de cela, en tout cas c'est sorti dans la presse la semaine dernière, je crois, on sortit un chiffre qui disait que ils avaient généré en 2017 40 millions de dollars de chiffre d'affaires en vente de tickets depuis leur plateforme. Je pense que tout ça, ça va s'articuler, notamment autour des plateformes que sont YouTube, que sont Deezer.
Clairement, moi je pense
donc,
que
l'idée, finalement, c'est de contrôler l'intégralité de la chaîne. Vous, les organisateurs, les organisateurs de concerts comme AEG, finalement, du spectateur, de la vente de billets jusqu'à la gestion d'artistes, en passant par les salles, les festivals.
Après,
c'est ça l'avenir.
Ce sera pas forcément l'avenir, comme le disait Thomas. Ça serait comme dire, il y a Universal et il y a Piass, et puis il y a que un modèle qui peut exister et pas l'autre, un indépendant et une major. Il va y avoir les deux. Mais je voulais rebondir sur ce que tu avais dit. C'est le moment où on va réussir à croiser les données que peuvent posséder les streamers avec les ventes de tickets. C'est à partir de ce moment-là, je pense, où on va rentrer vraiment dans une nouvelle ère, parce que la billetterie est vraiment centrale en termes de financement et de data et compagnie. Ouais.
Nicolas Dupeux, le patron de l'Accor Hôtel Arena à Paris.
Oui, non, mais je rejoins ce que tu as dit. C'est en fait la billetterie, c'est ce qui crée le lien avec le spectateur. Alors, il y a effectivement la partie financière, parce qu'il y a les produits de distribution. Mais je crois que l'enjeu derrière tout ça, il est surtout sur la data, parce que celui qui fait la billetterie, il a la connaissance de son client final et il sait derrière qu'est-ce qu'il peut lui proposer en fait comme expérience ou comme service. Et aujourd'hui, on n'est qu'aux prémices de la gestion de cette data. On a vu des grands acteurs comme Vente Privée qui viennent là-dessus. C'est pas pour rien, c'est quand même les leaders mondiaux du e-commerce. Donc s'ils arrivent là-dessus, c'est parce qu'ils ont l'expertise et c'est parce qu'ils ont bien compris que la data, elle est là.
Et quel usage en ont fait spécialement, donc concrètement, vous, le responsable d'une salle, le directeur d'une grande salle comme l'Accor Hôtel Arena?
On peut en avoir plein d'usages en fait. Hein. Il peut y avoir des usages d'abord pour faciliter bien sûr les ventes, accélérer la vente au moment de la mise en vente de la billetterie des concerts. Il y a ensuite aussi tout ce qui va être l'amont de la visite. Donc qu'est-ce qu'on va proposer? Qu'est-ce qu'on va proposer comme nouveau service? On parlait de coupe-fil tout à l'heure, on parlait d'expérience personnalisée, on parlait aussi de cashless, on parle aussi de capacité à gagner du temps au bar ou au merchandising en ayant un système de coupons. Et puis quand on va être dans la salle, ça va être l'engagement en fait. Tout le travail, il va être sur l'engagement du spectateur. Alors, c'est vrai que c'est très valable dans le sport, ça commence à l'être aussi dans la musique, mais c'est comment je crée cette interactivité et comment le spectateur, il devient acteur. Il regarde pas simplement un concert, en fait, il peut participer. Aujourd'hui, il y a des technologies qui permettent de voter en live, de faire changer des couleurs dans une salle, etc. Dans le sport, si on va sur le sport, c'est vrai que sur le sport, quand vous êtes chez vous, vous avez des stats, vous avez du replay, vous avez tous ces services-là. Demain, avec ces outils-là, vous pourrez avoir sur votre smartphone, vous pourrez choisir l'angle de vue de la caméra, faire un replay, mais pour avoir les stats comme chez vous. Et donc, vous avez le meilleur du chez soi en live. Ouais. Et c'est ça l'avenir en fait.
Arnaud Merceman, on pourra aller dans un festival, aller dans une salle comme l'Accor Hôtel Arena par exemple aussi avec, je sais pas, un casque virtuel où on nous projettera en effet, alors peut-être pas des statistiques, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on vous propose? Allez-y,
clairement, rêver. Nicolas a vraiment mis le doigt sur ce que c'est. C'est encore une fois, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'expérientiel. Donc comme il dit, le vote, par exemple les Rolling Stones, il y a un morceau sur toutes les setlists qui est choisi par le public. Sur les salles, on voit Madison Square Garden lance leur concept de sphère qui va être une salle en 360 en réalité virtuelle. Ça va être une grosse sphère entièrement couverte de vidéos qui va être en réalité virtuelle et entièrement des écrans. Et sur la partie plus expérientielle, nous sommes producteurs du festival Coachella aux États-Unis, par exemple. On va avoir, pour ceux qui souhaitent mettre le prix, un camping à part, avec possibilité de regarder les concerts du côté de la scène, avec plein d'autres choses, de services premium en plus. Et en fait, le futur, il est là, tout se joue là.
Et pour ça, il faut connaître son spectateur, en fait.
Absolument.
Il faut le connaître.
Yvan Boudillet, justement, quel écosystème on peut proposer dans un concerts, la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle, dans ces nouvelles salles de spectacle finalement?
Il y a énormément de choses. L'écosystème des startups en ce moment est absolument bouillonnant autour de la musique en particulier. En France, on a énormément de startups qui jouent avec la musique. Sur le live, les possibilités sont multiples. Il y a beaucoup de choses qui sont moins spectaculaires, mais qui sont de l'ordre de l'aide à la décision, donc du CRM. Alors le CRM, c'est pas magique quand on en parle, mais c'est tellement important, et dans le monde du spectacle, ça peut tellement faire du bien, connaître son consommateur pour lui proposer le bon produit, le bon service au bon prix, tout ça. Bon. Ensuite, des choses beaucoup plus immersives. J'ai eu l'occasion de collaborer avec une startup qui s'appelle Augmented Acoustics, par exemple, qui propose un casque qu'on peut... Je pense notamment sur des expériences dans le sport, ça peut être assez incroyable. C'est juste on a l'audio de la table pour le concert, mais pour un match, ça peut être le bruit des crampons. Et on peut choisir soi-même la balance pour un concert, mais pour le sport, on pourrait choisir dans quelle langue on a potentiellement le commentateur,
l'arbitre et les commentaires. C'est
simple, c'est extrêmement simple. Sauf que du coup, il y a plein de complexités pour arriver à ça. C'est sur le signal, la retransmission, pour qu'il n'y ait pas de latence. Et ils ont trouvé une technologie pour y arriver. Il y a des expériences autour, pas de la réalité virtuelle au sens mettre un casque dans une salle, puisque je pense qu'on reste encore sur des expériences collectives où on a besoin de
partager,
de se partager.
Bien sûr, bien sûr.
Mais plus sur la réalité augmentée. Et alors, tout ce qui est mapping vidéo, il se passe des choses incroyables là-dessus. Il y a des sociétés françaises super bien, je crois, qui sont là-dessus, qui proposent des choses complètement incroyables. Mais là, on est moins dans le start-up que dans des métiers qui sont là depuis très longtemps. On est très très bon en France sur l'audiovisuel, sur le cinéma. Et là, on va arriver à un croisement des métiers, croisement des savoir-faire entre l'audiovisuel, la technologie, le streaming. On va vraiment être sur un terreau. Le live, la scène, va être un laboratoire.
C'est là où ça va se passer finalement.
Je pense, parce que en plus, ça peut inspirer. On pourra peut-être aussi en parler comme un des sujets. Les marques veulent aller sur ce terrain d'expression.
Bah, allez-y, dites-le tout de suite parce qu'il nous reste 2 minutes. Vous voyez,
non, mais c'est appelé pour Thomas, mais
Thomas, oui, de Havas.
Les marques veulent aller sur ces terrains d'engagement, d'expression, de rapport aussi à le money can buy, enfin quelque chose de magique. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Thomas Desarnaud.
Aujourd'hui, les marques, c'était la première passion, loin devant les séries et le cinéma, même loin devant le sport, la musique. Le sport, aujourd'hui, c'est le début de la Coupe du Monde. Vous n'avez que 52% des gens qui se disent intéressés par la Coupe du Monde. Ouais. La musique, c'est 97% tout le temps. Mais les marques, comment elles le faisaient? C'était compliqué de s'associer à un artiste, à un disque. Le live, c'est le meilleur terrain de jeu. C'est là où les gens sont engagés. Et comme aujourd'hui, le live, c'est ce qu'on dit depuis le début, il y a besoin de services autour, d'expériences. Mais qui peut les amener, ces expériences? Quand vous allez à un festival comme Tomorrowland, les stands, c'est comme c'est des stands.
J'adorais la Tomorrowland, c'est dans le nord de la Belgique, c'est un festival techno.
C'est un festival technologique.
Et les places, elles sont prises dans les secondes qui suivent.
Et ce qui est important, c'est de noter que les marques ne sont plus sponsors, mais porteurs d'expérience ou porteurs de sens. Et c'est pas que des 20 mots.
Je pense que tu me contrediras pas, mais enfin nous, c'est des négociations qu'on a tous les jours avec la Fashion, avec vous. Si une marque apporte une expérience exceptionnelle, elle peut même être sponsor. Elle n'apporte que ça, que son expérience. Mmh. Elle va même pas payer un prix. Mmh. Elle est là pour amener une expérience supplémentaire.
Exactement.
C'est encore plus vrai.
C'est ce qui va permettre donc, cette compétition entre grandes salles. C'est celui qui va apporter, la formidable expérience virtuelle.
L'expérience différenciante et la plus immersive.
Allez.
Juste pour terminer, n'oublions pas une chose, c'est que dans un live, il y a d'abord au centre un artiste évidemment, tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, ça part d'eux. Ce qui est assez génial avec le streaming, et je crois que Deezer est un acteur majeur de ça, c'est la créativité en ce moment, la nouvelle génération d'artistes français notamment, que ce soit des DJ, que ce soit des artistes de pop, de rap, c'est ces gens-là qui font venir le grand public au concert, et on est heureux de participer à leur éclosion, comme jamais.
Voilà, il y aura Britney Spears à l'Accor Hotel Arena le 28 août, YouTube le 8 septembre, Indochine le 14 novembre, puis juste après un petit truc qui s'appelle l'Euro de handball, voilà, et puis donc ce mardi et ce mercredi soir, Justin Timberlake, Nicolas Dupeux, le directeur général de l'Accor Hotel Arena. Merci à vous, merci à Yvan Boudillet, fondateur de la société de conseil The Link, il est professeur à l'école de management des industries de la musique, Arnaud Merceman qui tisse sa toile à la tête d'AEG en France, c'est le numéro 2 mondial dans l'organisation de concerts, Thomas Desarnaud, directeur du département en musique de Havasport Entertainment. Et puis Alexis de Gemini, directeur général de Deezer, grand acteur du streaming. On revient vite avec les décodeurs de l'écho.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.